Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être encore fidèle au rendez-vous de Métropole et vous. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission. Une émission où depuis un an maintenant, nous avons abordé de très nombreux thèmes différents, tous en lien avec la vie de la métropole toulousaine dans tous les domaines, avec les grands sujets et projets qui font l'actualité métropolitaine. Et il ne manque pas, parmi ceux qu'il fallait mettre à l'ordre du jour à Métropole et vous, il y a tout ce qui concerne l'enfance, les jeunes, la famille, et en particulier la façon dont leurs droits sont protégés, défendus, quelles sont les structures qui peuvent y aider et qui interviennent pour toutes ces questions. Nous allons essayer d'y répondre au cours de cette émission consacrée à l'accès aux droits des jeunes et à la médiation familiale dans la métropole toulousaine. Il y a bien sûr divers organismes, structures, publics ou privées, qui œuvrent pour la protection de l'enfance, les droits des jeunes et la médiation familiale à Toulouse et dans les communes alentours, notamment des associations dont la Maison des droits des enfants et des jeunes de Toulouse. J'ai le plaisir de recevoir deux de ses membres aujourd'hui, Bérangère Dupont, médiatrice familiale, et Delphine Dupuis, juriste référente du service droits des jeunes. Bienvenue également à toutes les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'abord vous demander de préciser vos fonctions, ce qui va nous permettre de présenter l'association et les services qu'elle propose aux citoyens métropolitains. On va commencer par vous, Bérangère Dupont, médiatrice familiale. Ça consiste en quoi ?
Alors, la médiation familiale, moi, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des familles qui traversent des périodes particulières, en conflit, avec des difficultés de communication, des malentendus et des décisions à prendre. Alors, ça s'adresse, dans la grande majorité des cas, à des personnes qui traversent une séparation ou un divorce conflictuel et qui ont des enfants et donc qui doivent rester en lien pour prendre des décisions qui concernent leurs enfants. Ça peut être aussi d'autres situations familiales. Il peut y avoir des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants parce qu'ils sont fâchés avec les parents. Il peut y avoir aussi des jeunes majeurs qui, avec leurs parents, sont dans des difficultés relationnelles et des poursuites d'études et des cohabitations compliquées. Et donc là encore, de pouvoir trouver un fonctionnement qui soit acceptable pour tous. Et ça peut être aussi des fratries qui ont un parent vieillissant en perte d'autonomie, avec toutes les questions que ça pose sur le placement en institution, le maintien à domicile, la prise en charge, ou alors une succession et des dons par rapport au patrimoine, se mettre d'accord sur ce qui va advenir.
Et là, une petite curiosité personnelle, comment on devient médiatrice familiale ? Il y a des études particulières pour ça ?
Alors, il y a un diplôme d'État de médiation familiale spécialisé qui permet d'avoir des compétences en sociologie, en droit et en psychologie. Et puis, les techniques particulières et spécifiques à la médiation qui permet de mettre en présence les personnes pour pouvoir les aider à trouver des solutions.
Alors vous, Delphine Dupuis, donc vous êtes la juriste référente du service droit des jeunes à la Maison des droits des enfants et des jeunes de Toulouse. Pour être juriste, là je devine à peu près les études, ça doit être quelque chose qui a à voir avec le droit et la faculté de droit. En revanche, donc ce service, qu'est-ce qu'il propose à ceux qui s'adressent à vous ?
Donc le service droit des jeunes comprend deux volets. Il y a un volet qui permet à toute structure qui accueille des jeunes de proposer un atelier de sensibilisation sur des sujets variés. Par exemple, nous sommes sollicités par des collèges pour une sensibilisation au sujet de la justice des mineurs et dans ce cas-là, nous allons pouvoir remettre en scène une audience d'un tribunal pour enfants. Nous avons d'autres thèmes comme la citoyenneté où nous allons simuler une séance à l'Assemblée nationale. Donc dans ce premier volet, le but c'est vraiment de sensibiliser les jeunes, les mineurs et les jeunes majeurs sur toutes les questions de droit, de citoyenneté et de responsabilité. Et il s'adresse donc à toute structure qui accueille des jeunes mineurs ou jeunes majeurs. Le deuxième volet du service droit des jeunes, il s'agit d'un accès au droit. Plus particulièrement, nous proposons des permanences d'écoute et d'accès au droit à tous les mineurs et jeunes majeurs qui se posent des questions par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il peut aussi s'agir d'adultes qui se posent des questions par rapport aux droits des jeunes qu'ils peuvent côtoyer. Donc, pour recevoir ces personnes, nous avons une permanence qui est prévue dans nos locaux le jeudi soir à partir de 16h. Et nous avons aussi des permanences dans ce qu'on appelle les maisons de justice et du droit de Tournefeuille, du quartier La Lande sur Toulouse et du quartier de la Rainerie sur Toulouse. Et je précise que pour ces entretiens, bien évidemment, ils sont confidentiels et ils sont individuels. Nous recevons le jeune tout seul et s'il est accompagné de quelqu'un, cette personne attend en salle d'attente. Le but, c'est vraiment de recevoir ce jeune, de l'écouter et l'informer sur ses droits et ses devoirs. Et pour l'écouter et le recevoir, nous le recevons en binôme. Il y a un juriste, donc moi-même, et puis il y a un spécialiste de l'écoute qui est un bénévole de notre association. Nous avons environ une trentaine de bénévoles dans notre association. Et pour faire ces permanences, il y a environ 5-6 bénévoles qui se rendent disponibles pour donc assumer cette responsabilité de spécialiste de l'écoute qui sert à reformuler la demande du jeune et de ne pas aller que dans ce versant juridique qui n'est pas forcément la première réponse à apporter à ce jeune qui est dans une difficulté.
Bien, merci pour toutes ces précisions, cette première présentation de la Maison des droits des enfants et des jeunes. On va en reparler dans quelques minutes. Dans l'immédiat, place à l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Et l'actualité métropolitaine, c'est d'abord Toulouse Métropole qui renforce ses investissements pour la mobilité, le cadre de vie et les grands projets.
Oui, Toulouse Métropole va augmenter de 373 millions d'euros ses investissements par rapport à la version originale de sa programmation pluriannuelle des investissements, les PPI, qui couvrent la période donc de 2015-2020. Le PPI prévoyait alors près de 1,5 milliard d'euros pour développer le territoire. Il sera proposé au prochain conseil de la métropole, c'est-à-dire ce 28 juin, de porter cet effort d'investissement à plus de 1,8 milliard d'euros, toujours sur la période de 2015-2020, pour répondre aux besoins actuels. Cet accroissement de l'investissement doit bénéficier en priorité aux grands projets pour accompagner la concrétisation de grands chantiers tels que le nouveau parc des expositions, les remplaces jardins des allées Jean Jaurès ou encore le soutien à la ligne grande vitesse, mais aussi à la mobilité pour financer la montée en puissance des projets d'aménagement communaux et métropolitains ainsi que le transfert des voiries départementales ou encore enfin à l'habitat et l'amélioration du cadre de vie pour accompagner les réalisations dans les quartiers prioritaires du contrat de ville ainsi que le déploiement du Grand Parc Garonne. L'intégration des équipements culturels et sportifs va aussi bénéficier de plus de 41 millions d'euros de crédit. Cet effort se fera en préservant les équilibres budgétaires et sans hausse des taux d'imposition de la métropole.
Et justement, il y a un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'un certain grand projet dans cette émission. Les élus du groupe Métropole Citoyenne proposent un projet alternatif à la troisième ligne de métro de Toulouse.
Oui, ils ne sont pas contre la troisième ligne de métro, mais selon leur dire, elle ne répondra pas aux besoins des habitants. Les élus proposent de créer une ligne de métro avec pour trajet Colomiers-Matabiau, puis de créer 6 lignes RER raccordées aux 3 lignes de métro. Ces lignes RER pourraient s'adosser sur des lignes SNCF existantes. Dans l'agglomération toulousaine, seuls 8% des trajets domicile-travail se font en transport en commun. Le projet de RER est chiffré à 1,4 million. Le surcoût total serait donc de 400 000 euros. Pour Jean-Michel Latte, premier adjoint au maire en charge des déplacements et président de Tisséo Collectivité, le dépassement serait beaucoup plus important car il s'agit de doubler les voies SNCF. Pour autant, l'élu ne rejette pas en bloc cette idée d'étoile ferroviaire qui serait pour lui complémentaire et non pas substituable au tracé donc de la troisième ligne de métro.
Un sujet grave pour finir, la mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, l'agence régionale de santé, l'ARS et la préfecture de la Haute-Garonne s'associent pour prévenir et lutter efficacement et durablement contre les conduites addictives dont sont victimes des habitants, notamment les plus jeunes dans le Grand Mirail.
Oui, elle lance un appel à projets communs jusqu'au 30 septembre pour sélectionner un porteur associatif capable de proposer une stratégie globale de prévention et de lutte. Alors il existe déjà une convention entre Toulouse Métropole et des associations spécialisée dans l'accompagnement des jeunes et jeunes adultes en rupture éducative, familiale ou sociale, au sujet d'une décision de justice suite à des faits de délinquance. Ces associations répondent aussi aux élus, professionnels, parents, jeunes et adultes en besoin d'informations, de suivi et d'accompagnement. Les interventions de prévention de proximité ont lieu à la demande des personnes intéressées, que ce soit dans les communes auprès des élus, des professionnels, de leurs services ou encore dans les établissements scolaires, particulièrement du second degré, directement sur le site ou encore à la demande auprès des jeunes parents ou adultes. Les conduites à risque désignent un répertoire de comportements très différents les uns des autres, avec mise en danger plus ou moins volontaire à travers la consommation de substances psychoactives licites, à savoir les médicaments, l'alcool, le tabac à dose, ou illicites, à savoir les drogues douces ou dures. Mais il y a aussi les fugues, l'errance, la délinquance, la violence, mais aussi encore l'anorexie, la boulimie, les atteintes au corps par certaines marques corporelles, ou encore les comportements dangereux sur la route, les rapports sexuels non protégés ou les conduites suicidaires et la dépendance au jeu.
C'était donc le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Alors j'imagine que la dernière information aura retenu toute votre attention, Bérangère Dupont et Delphine Dupuis, parce qu'elle concerne des comportements, des situations auxquelles vous êtes sans doute confrontés dans le cadre de vos interventions.
Il est vrai que nous sommes parfois sollicités par des parents qui sont complètement désemparés, démunis par rapport à des jeunes qui se mettent en danger, qui ont des conduites à risque. Donc on essaie d'apporter une écoute et on essaie aussi de réfléchir avec eux aux solutions possible, et c'est là où effectivement l'orientation vers des structures professionnelles sur ces sujets-là, comme AAT pour les addictions ou ARPAD, je pense à ces professionnels-là avec qui nous sommes en contact, en tout cas essayer d'aider les parents qui ont des difficultés par rapport à ces jeunes. Parfois, il y a des jeunes qui n'acceptent pas les mains tendues, qui n'acceptent pas l'aide. Il faut effectivement que les jeunes soient prêts à utiliser cette aide qui leur est apportée. Et c'est là toute la difficulté pour ce sujet-là, en tout cas, par rapport à ces conduites à risque.
Est-ce que ça vous amène parfois, lorsque vous avez affaire, justement, vous le citez, à des jeunes qui refusent la main tendue, c'est l'expression que vous avez employée, à les diriger dès lors vers d'autres services que ceux que vous proposez, c'est-à-dire ça peut être des pédopsychiatres ou des assistantes sociales? Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de situation ?
Dans le service droit des jeunes, c'est plutôt rare, mais nous rencontrons quand même certaines situations. J'en ai rencontré une il n'y a pas très longtemps, et là, le jeune en question a déjà eu affaire à des professionnels de santé, pédopsychiatres, et là, le professionnel a dit que le jeune n'était pas prêt, et que les orientations, en tout cas, qui avaient été faites jusqu'à présent, n'avaient pas permis aux jeunes d'évoluer et de changer, et c'est là où il y a une difficulté de prise en charge, non seulement parce que le jeune, donc, n'accepte pas, et ensuite parfois par le manque de place. Donc en tout cas, nous, on essaie de dire aux jeunes qu'on est là, s'il a besoin de parler, d'être écouté, nous sommes ici. Après, bien sûr, il y a d'autres professionnels qui sont là, parce que nous, nous ne sommes pas du tout dans un suivi thérapeutique. En tout cas, c'est une première démarche, une première étape possible, et on essaie toujours d'orienter ces jeunes vers d'autres structures, comme on dit si bien, il faut trouver chaussure à son pied, et peut-être que ça ne marche pas avec un professionnel, mais avec un autre, ça peut marcher. Donc on essaie de donner un panel aux parents et aux jeunes, voir si ils arrivent à trouver quelque chose qui leur convienne.
Mais parfois, il faut trouver le bon interlocuteur, tout simplement.
Voilà. Et on peut se réjouir, justement, qu'il y ait de nouveaux projets qui renforcent l'accompagnement de ces jeunes, parce que c'est une réelle problématique.
Voilà donc un premier aspect de notre sujet du jour. Je rappelle le thème de ce numéro, l'accès aux droits des jeunes et la médiation familiale dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec nos deux invités, Delphine Dupuis, juriste référente du service droit des jeunes, et Bérangère Dupont, médiatrice familiale à la Maison des droits des enfants et des jeunes de Toulouse, pour donner une idée à nos auditeurs de la situation dans ce domaine. Est-ce que vous avez un chiffre précis ou approximatif du nombre d'affaires que traite votre association chaque année? Alors ça va peut-être être service par service. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous rayonnez, j'ai cru comprendre que oui, sur l'ensemble du territoire de la métropole?
Alors c'est vrai que notre action, elle est surtout sur Toulouse et ses environs, mais nous sommes une association départementale, donc on a des permanences de proximité aux environs de Toulouse et dans tout le département.
Donc le nombre d'affaires auquel je faisais allusion, on a une idée en tout cas du nombre d'affaires concernant la médiation familiale et du nombre de consultations en ce qui concerne le droit des jeunes?
Alors, pour ce qui est de la médiation familiale, dans notre service, on est deux médiatrices familiales, mais on accompagne quand même 100 médiations, chacune rassemblant plusieurs personnes. Et évidemment, sur les entretiens d'information, les actions de communication qu'on peut faire, de promotion et d'information, on touche beaucoup plus de personnes. On estime que l'association, dans ses différentes missions, touche 6000 personnes par an, entre l'accès aux droits des jeunes, la formation, les diverses interventions qu'on fait et la médiation familiale, ce qui est quand même assez considérable.
Oui, est-ce que ça a tendance à augmenter? Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes?
On a des demandes qui augmentent. Alors pour la médiation familiale, on est de toute manière depuis plusieurs années saturé de demandes. C'est-à-dire qu'on n'arrive déjà pas à proposer à toutes les personnes qui nous contactent des médiations familiales. Pour autant, heureusement, on travaille avec nos partenaires. Donc il y a toujours des propositions, d'autres prises en charge qui sont proposées et qui sont adaptées. Pour les autres services, je laisse parler ma collègue.
Alors pour le service droit des jeunes, les demandes sont à peu près stables avec une légère augmentation en 2016. Et ensuite pour le service de formation, parce que c'est un troisième service de notre association, pour l'année 2016, notre collègue Julie Borde, référente du service droit des jeunes, a touché 1717 stagiaires, je ne sais pas si ça peut parler, en tout cas ça rassemble 381 heures de formation. Donc c'est assez conséquent.
Donc ça montre qu'il y a beaucoup de demandes.
Voilà,
oui. Et d'attentes sans doute.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, la question évidemment quand les demandes augmentent, c'est est-ce que parce qu'il y a de plus en plus de cas ou est-ce que parce que les gens font plus facilement la démarche qu'auparavant?
On est une association qui existe depuis 1993, donc on est bien repéré sur le territoire et on a pu au fil des années créer un partenariat solide avec les différents champs professionnels partenaires. Donc ça, c'est sûr que c'est un pourvoyeur de personnes,
prescripteur,
un prescripteur régulier. On sait aussi que les interventions en milieu scolaire permettent aux jeunes de bien nous connaître et donc pouvoir avoir accès facilement aussi à l'association. Et pour la médiation familiale, il y a un développement constant qui est aussi dû à l'évolution législative et aux pratiques des juges. Et donc, les juges aux affaires familiales, notamment, orientent de plus en plus les personnes dans les situations de conflit vers la médiation familiale.
Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Quels sont les types de cas auxquels vous êtes le plus fréquemment confrontés dans vos services respectifs ? J'ai comme ça des choses qui viennent à l'esprit, la maltraitance, la violence, les conflits familiaux, les séparations, bien sûr. Il y en a d'autres.
Alors, par rapport au service droit des jeunes, le cas le plus fréquent est relatif à la demande d'un enfant de ne plus voir l'autre parent lorsque, effectivement, les parents sont séparés. Les enfants ont l'habitude de dire qu'à 13 ans, ils peuvent choisir d'aller vivre avec l'un des parents. Bon, c'est là où la loi a sa mission. On les informe, effectivement, sur la possibilité, non pas de choisir, encore moins à 13 ans, mais en tout cas, on les informe sur un droit, le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils aimeraient. Et on va les informer des possibilités, en tout cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse juridique ne sera pas forcément celle qui sera apportée de suite. On va essayer de voir pourquoi cet enfant ne veut plus aller voir l'autre parent. Et on va peut-être réfléchir avec lui à des solutions possibles pour que ce quotidien qu'il n'accepte plus avec l'autre parent, eh bien, s'améliore. On va lui indiquer, du coup, de travailler peut-être la communication directement ou par une lettre. Et puis après, s'il est vraiment dans une démarche où il veut absolument porter sa voix devant un juge, on lui dira ce qu'il peut faire en fonction de son âge et de, surtout, sa capacité de discernement. Et là, on se basera sur la loi. Mais d'abord, c'est un travail de communication qu'on va essayer de retravailler. L'enfant qui verra son parent, ou alors on peut aussi proposer une rencontre parent-enfant. Permettre au jeune de parler dans un lieu neutre devant son parent et lui dire ce qu'il a sur le cœur, tout simplement.
Les enfants les plus jeunes auxquels vous avez affaire, c'est quel âge à peu près ?
Dans le service droit des jeunes, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des enfants de 3 ans. Donc effectivement, là, ils ne vont pas parler autant que des ados, mais ils arrivent avec leurs mots à s'exprimer. Et puis nous, en tant que professionnels, on va aussi adapter le vocabulaire, essayer d'apporter une réponse, s'il y a une réponse à apporter, en tout cas d'essayer de voir comment se comporte cet enfant et les difficultés qu'il peut avoir. Parfois, c'est les parents qui peuvent être un peu stressés, qui vont amener leur enfant. À 3 ans, c'est un petit peu délicat,
oui,
de faire cet entretien, en tout cas d'écoute et d'information, mais on s'adapte.
Alors en matière de médiation familiale, les principaux cas auxquels vous avez affaire, je crois qu'il y a 4 grands types de cas.
Oui, il y a 4 champs d'application de la médiation familiale, en particulier dans les services qui sont conventionnés, comme c'est le cas pour le nôtre. Donc, ce sont les séparations-divorces, première situation qui est la plus importante. Les situations de jeunes majeurs en difficulté relationnelle avec leurs parents, et notamment dans l'accompagnement de poursuites d'études. Les grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants. Et également, les situations de fratrie qui doivent prendre des décisions sur une succession ou un parent vieillissant perd d'autonomie. En sachant que l'essentiel des situations que nous recevons, ce sont donc des parents qui, à la suite d'une séparation, doivent continuer à avoir un minimum de communication constructive pour pouvoir faire face à toutes les questions qui se posent. Et en médiation, on les accompagne sur les aspects très concrets, hein, c'est-à-dire comment ils vont prendre des décisions qui concernent la scolarité, la santé, les loisirs, les activités extrascolaires par exemple, les voyages, etc. Il peut y avoir aussi, évidemment, comment les enfants vont vivre chez chacun des deux parents et donc se répartir un temps d'accueil qui soit acceptable pour tous, qui puisse correspondre aux besoins de l'enfant, qui soit adapté aussi aux situations atypiques. Par exemple, les parents qui ont des horaires de travail atypiques ou des déplacements professionnels réguliers. On pense les hôtesses de l'air qui doivent partir pendant 4 jours. Évidemment, les chauffeurs de bus qui travaillent le soir et le week-end, etc. On a toutes ces situations où on se rend compte que la réponse des habitudes judiciaires qui prévoient par exemple un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ou une semaine sur deux ne sont juste pas adaptées. C'est le cas aussi dans le fait d'avoir un enfant en bas âge. On a ces situations de manière très courante, donc des enfants qui ont moins de 3 ans. Et là, on se rend compte aussi que c'est important de pouvoir adapter au rythme, à la sieste, à l'allaitement, aux horaires de la crèche, aux heures de fermeture, etc. On peut prendre en compte aussi la distance géographique qui existe entre les deux domiciles des parents, parce que, évidemment, c'est pas pareil quand on habite dans la même rue que quand on habite à 300 km d'écart.
En général, comment les gens viennent à s'adresser à vous ? Est-ce que la plupart font la démarche directement de leur propre chef, si je puis dire, ou est-ce qu'ils sont dirigés par d'autres institutions qui peuvent être des collectivités, je sais pas, des services sociaux, des mairies, ou des cabinets d'avocats, pourquoi pas ?
Alors, la démarche en médiation familiale est particulièrement difficile, de venir exposer sa situation familiale, et y compris les questions financières et administratives. On rentre vraiment dans des choses qui peuvent être très,
très intimes
et très complexes, parce que des fois, les aspects patrimoniaux peuvent être très complexes aussi. Donc, c'est très important de pouvoir compter sur des partenaires qui vont effectivement rassurer les personnes en disant voilà, on les connaît dans ce service, vous pouvez y aller. Sinon, les personnes peuvent évidemment prendre contact directement avec nous, et on a quand même, nous, plus de la moitié des situations qui sont orientées par un juge, donc des personnes qui font d'abord la démarche d'une procédure et qui vont être orientées dans la décision de justice vers notre service de médiation familiale.
Et dans le domaine du droit des enfants et des jeunes ?
Alors, dans le service droit des jeunes, l'orientation en première se fait via Internet, parce que les gens tapent droit des enfants et ils tombent sur notre site Internet. Et ensuite, il s'agit d'une orientation faite par les travailleurs sociaux, mais il peut s'agir aussi d'une orientation avocat, une orientation de professionnel de santé. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui nous orientent des personnes, mais la première, selon les statistiques 2016, c'est Internet.
En matière de médiation familiale, comment vous intervenez dans un premier temps et avec quels objectifs ? Comment ça se passe, tout simplement, concrètement ?
Oui. Alors, en général, une médiation familiale, c'est en moyenne 4 entretiens d'une heure et demie toutes les 2 semaines. Donc, les personnes s'engagent, à la suite d'un entretien d'information, à venir pour plusieurs séances. On a vraiment en tête qu'on ne peut pas tout régler en un entretien, mais que ça n'a pas vocation à s'éterniser, parce qu'on n'est pas en thérapie et qu'il faut rapidement que les personnes puissent trouver un nouveau fonctionnement, un soulagement dans leur quotidien. Donc, elles vont pouvoir dire qu'est-ce qui les amène, quelles sont les préoccupations, donc soit par rapport aux enfants, soit par rapport aux questions financières ou administratives. Et on va les accompagner avec des outils spécifiques pour faire du sur-mesure par rapport à leur situation, de manière à ce que chacune puisse se sentir entendue, comprise, et qu'elle puisse élaborer des propositions de solutions. C'est-à-dire que le médiateur, c'est pas celui qui va dire comment vous devez faire. C'est pas non plus un conciliateur qui va tenter un rapprochement ou un juge qui va dire qui a raison, qui a tort. On est vraiment dans un principe d'accompagner les personnes sur le fait qu'elles sont les plus à même à prendre des décisions qui les concernent.
En général, les conciliations aboutissent, ou est-ce qu'il y a un nombre assez important de situations où malheureusement on n'arrive pas à trouver une solution qui puisse satisfaire toutes les parties ?
Très généralement, les personnes arrivent à des accords, et notamment des accords écrits qui arrivent donc à formaliser leurs décisions et qui peuvent être, si elles le souhaitent, homologuées par un juge aux affaires familiales. Donc, elles partent de la médiation à la fin avec un accord qui est formalisé. Pour autant, des fois, les personnes ne se contentent d'un accord oral et ça leur convient tout à fait. Après, évidemment, des fois, les personnes n'arrivent pas à trouver satisfaction en médiation familiale et on respecte tout à fait ça également. Des fois, c'est bien qu'elles puissent se protéger du conflit et agir à travers l'intermédiaire de leur avocat. Elles peuvent aussi trouver des solutions dans un autre type d'accompagnement.
Alors j'ai vu que vous proposiez aussi dans vos services de la sensibilisation, prévention. De quoi il s'agit et à qui ça s'adresse ?
Alors, il s'agit d'ateliers de sensibilisation qui s'adressent aux mineurs et jeunes majeurs. Toutes les structures qui accueillent des mineurs et jeunes majeurs peuvent nous solliciter, nous contacter pour faire un atelier de sensibilisation. Et là, nous avons divers sujets comme la justice des mineurs, nous reconstituer un tribunal pour enfants. Les jeunes peuvent se mettre dans la peau d'assesseurs, d'avocats, du mineur prévenu, de la victime. Et c'est un bon moment qu'on passe avec les jeunes, à la fois donc ludique mais aussi très instructif, sachant que les jeunes sont souvent pas mal au courant de ce qui se passe. Mais on essaie quand même d'apporter des petites nuances et des informations plus précises, parce que c'est vrai que parfois ils pensent que ce sont les parents qui vont être punis à leur place. Donc ça permet de resituer un petit peu le tout. Et nous avons d'autres thèmes comme le vivre ensemble, le harcèlement et la citoyenneté, avec une simulation d'une audience à l'Assemblée nationale où les jeunes vont vraiment se mettre dans la peau des députés et vont essayer d'argumenter pour le passage ou non d'une loi. Donc on propose habituellement le passage de la majorité à 16 ans. Et c'est là où ces jeunes font vraiment œuvre d'éloquence et apprennent à prendre position et utilisent des arguments. Donc c'est encore un bon moment qu'on passe avec eux, ludique et instructif.
Eh bien, on terminera là-dessus. Merci infiniment à toutes les deux pour votre venue à Métropole
et vous
et pour ces précieuses informations, parce que je crois que beaucoup de citoyens ignorent, d'une part, la législation en matière de droits des enfants et des jeunes, et d'autre part, qu'il existe des associations comme la vôtre pour les aider dans leur démarche et pour défendre leurs droits. Nous pouvons tous être confrontés un jour à une situation compliquée où il est nécessaire d'être bien épaulé et conseillé. Cette émission avait la modeste ambition de vous informer sur ce qui existe dans ce secteur à Toulouse et dans la métropole, notamment bien sûr la Maison des droits des enfants et des jeunes. Voici son site internet www.droits-et-enfants.com. N'hésitez pas à le consulter et à contacter l'association pour avoir des renseignements supplémentaires. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.